Il y a au milieu du désert une montagne qui s'appelle Jbel Moussa, la montagne de Moïse. Tous les Bédouins savent nous la montrer. Donc, si c'est la montagne de Moïse, ben forcément qu'il faut faire passer Moïse par cette montagne, sauf que Moïse n'était ni Suisse ni Valaisan. Et que je ne vois pas comment ce qu'il aurait pu passer par le mont Moïse. Étant donné que le mont Moïse ne s'appelle le mont Moïse que depuis le 4e siècle, c'est-à-dire l'arrivée des premiers moines ermites, 4e siècle de notre ère. Et avant, aucun juif religieux n'était intéressé à l'épisode de l'Exode. Pourquoi? Parce que l'Exode nous amène en terre promise. Et que par conséquent, on ne revient pas en arrière. Et que par conséquent, c'est en terre promise qu'on va localiser le lieu où Dieu a donné sa parole. Et donc, le mont sur lequel Dieu a parlé à Moïse, lui a donné les tables de la loi, on va voir. Et que ces tables de la loi ayant été détruites, on va demander à Dieu de faire un duplicata, ce que Dieu, dans sa grande générosité, va faire, et donc on va repartir avec. Tout ça doit se trouver en terre promise. Mais Moïse n'est pas entré en terre promise, puisque il s'est arrêté au chapitre 34 du Deutéronome. Donc vous voyez, il vaudrait mieux ne pas trop poser de questions, parce que plus vous posez de questions, moins ça va dans le sens de la tradition. Et pour une raison très simple, qui est toujours encore valable aujourd'hui, y compris pour les chrétiens qui vont en pèlerinage en Terre Sainte, c'est qu'on veut absolument localiser tous les épisodes de la Bible. Mais il ne faut pas les localiser là où vous ne pouvez pas les repérer. Alors, juste en parenthèse, c'est pour nous permettre de sourire 2 secondes. Quand je suis avec un groupe à Jéricho et que je me renseigne pour savoir quels sont les autres groupes qui sont dans la région en même temps que moi, pour ne pas aller sur le tel où il y a les ruines de la ville de Jéricho en même temps que 5 ou 6 autres groupes, et que j'entends qu'il y a un groupe d'évangéliques américains dans la région, alors je m'arrange pour être sur l'autel en même temps qu'eux, mais je dis à mon groupe, écoutez, vous me promettez que personne ne rit. Vous restez très sérieux, on va écouter ce que le guide va dire, mais vous ne riez pas. Après, je vous donnerai tout le temps qu'il faut pour vos questions. Alors, une fois que le groupe m'a promis qu'il ne rirait pas, on s'approche du groupe et on entend le guide, et ça ne manque pas. Tous les groupes d'évangéliques américains qui passent à Jéricho s'arrêtent au même endroit pour montrer la pierre que Jésus n'avait pas où reposer sa tête. Ça, c'est le plus beau lieu saint que je connaisse. La pierre que Jésus n'avait pas où reposer sa tête. C'est une citation, hein? Et c'est dans l'Évangile, donc vous n'allez pas me dire que c'est pas.
Je sais, moi.
Voilà. Donc, qui est-ce qui a inventé les lieux saints? Pour en finir avec les lieux saints. En tout cas, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Il n'y a qu'un seul endroit dans le livre de l'Exode où il est question en hébreu de Makom HaKodesh, d'un lieu saint. Et Dieu merci, personne n'a jamais planté un écriteau pour dire ici c'est le lieu saint. Et c'est où? Réponse, c'est là où Dieu donne sa parole. Mais vous croyez que mes prédécesseurs, ils se contentent de ce genre de réponse? Bien sûr que non. Donc, au cours des 16 siècles qui nous précèdent, la localisation du lieu où Moïse a reçu les 10 paroles est inscrite sur la pierre, elle a beaucoup bougé. Depuis le 4e siècle, il y a une présence dans la région qu'on appelle Sainte-Catherine, mais le monastère lui-même a été fondé exactement au même temps que le monastère de Saint-Maurice, 529. C'est pour ça qu'il y a un lien très étroit entre les chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice et les moines de Sainte-Catherine qui ont fêté le Xe anniversaire ensemble. Bon. Mais pour nous, vous avez tous les ingrédients qui veulent nous dire, mais le Makom HaKodesh, le lieu saint, c'est là où Dieu vous donne sa parole. Et il ne peut pas faire autrement puisqu'il m'a promis d'être toujours avec moi. Alors jouons sur le mot français, quand vous donnez votre parole à quelqu'un, c'est quand même important. Et Dieu me donne sa parole. Ou ça peut être très différent pour les uns et pour les autres. Claudel nous dit que ça s'est passé au pied du pylône de la colonne, je ne sais pas où, un 24 décembre, alors qu'il priait à Notre-Dame. Très bien. C'est là qu'il y a eu une rencontre. Eric Emmanuel Schmitt a écrit un très beau livre sur cette rencontre au milieu du désert, mais d'Afrique du Nord, à la Sécrem. Et pour chacun d'entre nous. Donc, vous voyez qu'à la fois, il est extrêmement important de pouvoir dire c'est ça, mais vous permettez, j'ai eu la joie dans ma vie de prêtre d'assister à un nombre assez important de mariages. Où on m'a demandé de présider à la cérémonie. Et j'aime bien, avant, rencontrer les mariés et faire un bout de chemin avec eux. Et je leur pose toujours la question, ça s'est passé où? Puis ils me regardent, quoi? Je dis, là où vous vous êtes rencontrés, je pourrais en écrire un roman avec toutes leurs réponses. Il y en a qui me disent, mais c'est pas quand on s'est rencontrés que ça s'est passé, hein? Non, la première fois, puis je les laisse parler entre eux. La première fois que je t'ai vu, c'est rien passé, au contraire, ça m'a plutôt... Puis d'autres vont dire, mais c'était à cet endroit, à cette heure précise, etc. Le mont Moïse, c'est la même chose. Et donc, ce texte que nous allons lire, c'est un peu la même chose. Là, pour ne pas faire long, ceux qui nous ont préparé la petite plaquette auraient pu mettre non seulement le chapitre 16, mais ils auraient pu mettre en même temps la rencontre de Moïse avec Dieu ou de Dieu avec Moïse, mais ça fait rien. Restons à cette première partie parce que tout se tient. Et de cette quatrième célébration, je vais retenir deux choses. La première, c'est gentil, dans notre texte, c'est marqué des plaintes. Et le texte traduit par les murmures ou la protestation. Oui. Honnêtement, chers amis, moi, il y a des jours où ça ne suffit pas que je proteste, hein. Je râle, tout simplement. Et en plus, je suis sûr que j'ai raison de râler. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand ça râle, c'est qu'on a raison de râler. Deuxième chose, c'est intéressant, c'est sa réaction à lui. Parce que bien évidemment, contre qui je vais râler? Parce que il y a bien un fautif dans tout ça. Donc c'est la faute à qui? Eh bien, heureusement que Dieu existe, chers amis, hein? Parce que quand j'ai plus réussi à trouver la faute à qui, eh bien, ça finira par être la faute à Dieu. Lisons tranquillement ce texte. Et ils partirent d'Élim. Et le 15e jour du 2e mois après la sortie d'Égypte, ils arrivèrent au désert de Sin. Permettez, je ne veux pas être critique absolument, mais ils ont fait comment pour calculer les jours? Ça, alors, c'est l'exemple type du truc qu'on écrit après coup. C'est comme la plaque que vous mettez à l'entrée de votre maison. Non, la plaque qu'on mettra à l'entrée de votre maison. Ici a vécu monsieur un tel qui était connu pour, etc. C'est évidemment pas vous qui allez mettre la plaque. Vous allez pas mettre ici, j'ai vécu. Bon. Donc, le quatrième jour du deuxième mois après la sortie, encore faudrait-il que nous connaissions exactement le jour de la sortie. Et donc, vous voyez bien qu'on a affaire à un calendrier liturgique. C'est dans la liturgie du peuple juif que, à un moment donné, on va fixer la sortie d'Égypte et on va la marquer par une fête. Et nous sommes actuellement en plein dans ces fêtes juives. Nous sommes à la fin de la série des fêtes. Elles tombent toujours en septembre-octobre, c'est-à-dire ça commence par la fin des moissons et des vendanges, puis jour de l'an, puis Yom Kippour, c'était hier. Donc le jour des grands pardons, c'est-à-dire que, comme pour le peuple juif, c'est très clair, on ne peut pas pardonner parce que Dieu seul pardonne. Donc le peuple juif ne pardonne jamais. Mais on a une fête, le Yom Kippour. C'est le fait où on met tous nos péchés sur une bête qu'on va immoler, ou en tout cas qu'on va dans un endroit où on va les détruire, parce que c'est Dieu qui nous pardonne. Et puis ensuite, il y aura la fête à Dieu, c'est encore comme ça qu'on l'appelle dans certains villages catholiques, où on va sortir, Dieu est le premier à travers le village, on va sortir la Torah et on va la promener à travers la communauté. Et je trouve ça toujours merveilleux lorsque un des reposoirs, un des endroits où on va s'arrêter pour remercier Dieu, c'est par exemple le bistrot qui est ouvert surtout la nuit, ou c'est par exemple la banque du coin, où bien sûr il ne se fait que des prêts très avantageux et où c'est tous les participants d'abord. Enfin bref. Il y a quelque chose que nous avons gardé. Alors, il y a un moment donné où il faut fixer la fête. Ce sera donc le 15e jour du deuxième mois après la sortie d'Égypte. Ils arrivent au désert de Sin. C'est en gros, merci de cette précision. Comme je vous le disais, Makom HaKodesh, on ne peut pas fixer le lieu saint, alors on nous dit c'est en gros dans le désert et près du mont Sinaï. Mais le mont Sinaï n'existe pas à l'époque pour la première fois. Il sera nommé, comme je vous l'ai dit, dans le 4e siècle de notre ère. Et là, dans le lieu sans parole, dans le désert, les Israélites se mirent. Ok, gardons une attitude un peu clean. À protester. Et ils protestent. Ben, c'est quand même eux qui nous ont emmenés dans cette aventure, hein. Donc, c'est normal que ce soit Moïse. Et Moïse, je vous rappelle, on a sauté ce passage, mais c'est un passage important, surtout pour tous ceux qui sont, par exemple, pasteurs ou prêtres et qui ne sont pas doués pour l'élocution ou pour les homélies, eh ben c'est important de savoir que quand Moïse reconnaît qu'il a la bouche lourde, c'est-à-dire il bégaye, et que ça ne va pas, il demande à Dieu de l'aide et Dieu lui envoie son frère, Aaron. Ça peut servir. Donc, ça râle ou ça proteste contre Moïse et contre Aaron. Et tout le monde disait, ben pourquoi est-ce que, pas Elohim, pourquoi notre Dieu, le Dieu qui est avec nous, Pourquoi il nous a fait mourir en Égypte? Alors que nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. Chers amis, j'espère que vous appréciez l'humour. Ils étaient dans des camps de concentration. Ils étaient esclaves pour le compte des pharaons qui les a fait construire. Mais eux, ils râlent parce qu'ils avaient des marmites de viande à manger. Je nous retrouve bien dans tout ça. Parce que si on râle que ça ne vaut pas la peine, et quand on râle, est-ce que je me trompe? Mais c'est souvent pour un retour en arrière. C'est bizarre, comme hier, c'était toujours mieux que demain. Alors que toute la Bible essaye de nous faire comprendre que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Mais on est lourd à la comprenette. Mais vous, c'est toujours le peuple qui râle contre Moïse, mais vous, vous nous avez conduits dans ce désert et on va y crever de faim. Alors Moïse ordonna à Aaron, dis à toute la communauté d'Israël de venir se présenter devant celui qui est avec nous. Car il a entendu les protestations. Plus loin, on dira, le Dieu qui est avec nous a dit, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ces cris qui montent vers moi. Et pendant qu'Aaron parlait à la communauté, ils se tournèrent du côté du désert. Et ils se tournent du côté du désert. Et ils sont en plein dans le désert. C'est où le côté du désert? Alors la gloire du Seigneur se manifesta dans la nuée. Et le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les protestations des Israélites. Dis-leur ceci de ma part. Ce soir, ça va, vous avez retrouvé le rythme de la journée. Donc c'est pas, ça commence le matin, ça finit le soir, ça commence le soir et les bienfaits du Seigneur vont commencer le soir où vous dormez. C'est seulement le lendemain matin que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui se sont passées, elles ne dépendent pas de moi. Ce soir, vous mangerez de la viande et demain, vous aurez du pain en suffisance. Ainsi, vous saurez que moi, je suis. Et tout à l'heure, on m'a fait l'allusion au « je suis » si fréquent dans la littérature johannique, et en particulier dans l'évangile de Jean. « Je suis ». C'est une façon de Jésus de s'approprier YHWH. « Je suis ». Le Seigneur, votre Dieu. Et en effet, le soir, des cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le camp. Et je vous assure que c'est vrai, j'en ai mangé. Parce que aujourd'hui encore, il y a énormément de cailles dans le désert. Je ne sais pas avec quoi elles survivent, mais elles trouvent sûrement à manger. Et les Bédouins aiment, et c'est un plat de choix, attraper les cailles avec leur filet ou éventuellement avec leur fronde et puis de les griller. Et c'est très bon. Les cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le corps. Et le matin, tout autour du camp, il y avait une couche de rosée. Et lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Et les Israélites le virent. Mais ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils se demandèrent les uns aux autres, « Man hu ?» Vous l'avez sur la feuille que je vous ai mise. Et c'est superbe. Et là, je regrette beaucoup que la Tob y traduit. Ils auraient pu le mettre en note. Parce qu'ils se demandèrent les uns aux autres, c'est quoi ça? Et Moïse leur dit, ça, c'est le pain que le Seigneur qui est avec vous vous donne à manger. Je lis rapidement, mais je reviendrai à ça. Et voici que le Seigneur a ordonné que chacun ramasse la ration qui lui est nécessaire. Vous en ramassez environ un homer par personne. C'est une quantité, on ne sait jamais combien, mais ça équivaut à peu près à 4 litres. Ça fait déjà un joli paquet, hein? 4 litres, oui. Et vous en ramassez d'après le nombre des personnes vivant sous la même tente. Les Israélites agirent ainsi, ils en ramassèrent les uns beaucoup, les autres peu, mais lorsqu'ils en mesurèrent la quantité, ceux qui en avaient beaucoup n'en avaient pas trop, et ceux qui en avaient peu n'en manquaient pas. Et chacun en avait la ration nécessaire. Et merci de ne pas avoir cité la suite, parce que la suite c'est, et les petits malins qui en ont pris trop, et ben ce qu'il y avait de trop, ça grouillait de vermine. Nania, c'est bien fait. Vous comprenez le style du... Donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire des réserves? Ah non, 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 mais après tout ce qu'on a vécu, il faut faire des réserves, hein, on ne sait jamais ce qui nous attend. Donc, et puis, il vaut mieux prendre des assurances en plus. Donc, non seulement vous faites des réserves, mais vous assurez les réserves, etc. Et voilà. On ne se refait pas, chers amis. Depuis l'époque de l'Exode, c'est déjà comme ça. Mais c'est quoi le manhu? Donne-nous aujourd'hui notre pain. Moïse dit, c'est le pain. Mais ce n'est pas du pain de boulanger, vous avez compris. Vous pourriez remplacer le mot pain par nourriture. C'est quoi le manhu? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, n'allez pas en acheter à la Migros ou à la Coop. C'est dans le livre de l'Exode que quand ils sont arrivés en terre promise, il n'y a plus. Donc les stocks sont épuisés. Il n'y a plus à la Migros et à la Coop. N'allez pas chercher. C'est quoi le manhu? C'est quoi ce dont j'ai besoin aujourd'hui? Et là, c'est différent pour chacun. Et de nouveau, c'est important de prendre conscience que ce dont j'ai besoin, moi et ma famille, ce dont j'ai besoin, ben, c'est peut-être pas ce dont la famille d'à côté a besoin, mais c'est ce dont j'ai besoin. Et il y en a qui ont ramassé beaucoup parce qu'ils ont besoin de beaucoup. Et il y en a qui ont ramassé peu parce qu'ils ont pas besoin de plus. Juste avant qu'on s'arrête, j'aurai l'occasion, après le repas, de revenir. J'aimerais vous montrer combien ce texte a travaillé les théologiens juifs d'abord, les rédacteurs de la Bible, puis par la suite, toute la tradition biblique. On vient de lire. La couche de rosée se leva sur la surface du désert. Il y avait quelque chose de granuleux, de crissant, quelque chose de fin, tel du givre sur la terre. Et les fils d'Israël regardèrent se dire l'un à l'autre, « Manhu, qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Vous croyez que ça leur suffit? Bien sûr que non. Donc par la suite, livre des Nombres, chapitre 11, versets 4 à 8, Nombres 11, 4 à 8, il y avait un ramassis de gens qui furent saisis de convoitise. Voyez déjà comment ce qu'on traite les fils d'Israël. C'était un ramassis de gens qui râlaient parce qu'ils avaient faim. Et les fils d'Israël eux-mêmes commencèrent à pleurer. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail. Ça, c'est le commentaire de ce qu'on vient de lire. Donc, dans ce qu'on vient de lire, il n'y a que des marmites de viande. Non, non, il y avait beaucoup mieux. On n'est pas dans n'importe quel restaurant quand on est en Égypte. Hein. Il y a des concombres, il y a des pastèques, il y a des poireaux, il y a des oignons, il y a l'ail. Et maintenant, notre vie s'étiole. Plus rien de tout cela. Nous ne voyons que le manhou. C'est quoi le manhou? Je continue la lecture. Le manhou ressemblait à de la graine de coriandre, son aspect avait celui du télium, le peuple se dispersait pour la ramasser, ensuite on l'écrasait à la meule, on la pilait dans un mortier, on la faisait au micro-ondes à 400, non c'est moi qui rajoute, dans le texte c'est marqué, on la faisait cuire dans des marmites et on faisait des galettes. Elle avait le goût du gâteau à l'huile. Vous vous rendez compte, tout ce qu'on vient de lire sous « et ils râlaient parce qu'en Égypte, ils avaient des marmites ». Alors maintenant, c'est tout juste si on n'a pas le mode d'emploi. Un siècle plus tard, Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 5. Deutéronome 8, 2 à 5. C'est Dieu qui parle. Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert. Il t'a mis dans la pauvreté. Il t'a fait avoir faim. Il t'a donné à manger le c'est quoi ça que ni toi ni tes pères ne connaissiez pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ça, vous connaissez cette dernière phrase. Donc on est en train de comprendre que, mais c'est pas à la Migros et à la Coop qu'il faut aller acheter de la manne. C'est le qu'est-ce que c'est ça. Dernière citation, c'est la plus belle, dans le livre de la sagesse. C'est la communauté juive qui est à Alexandrie qui écrit ce livre. Et au chapitre 16, versets 20 à 21, c'est délicieux, et juste avant le repas de midi, ça tombe pile. C'est une prière que l'on adresse à Dieu. Voilà ce que tu as fait, et, verset 20, chapitre 16 du livre de la sagesse, et à l'opposé, tu as distribué à ton peuple une nourriture d'ange. C'est quoi un ange? C'est un porte-message. C'est un messager. Tu as distribué à ton peuple une nourriture d'ange. Tu lui as procuré, venant du ciel et sans aucun effort de sa part, un pain tout préparé, ayant la capacité de toute saveur et adapté à tous les goûts. C'est fantastique. T'aimes pas les galettes sucrées? Eh bien, elles seront salées. T'aimes pas ce qui est épicé, ce sera doux comme du miel. Ça s'adapte à tous les goûts. C'est pas fini. Et la substance, ah, je vais enfin savoir c'est quoi le C. Bam, oh. La substance que tu donnais manifestait ta douceur pour tes enfants, car elle se pliait au désir de celui qui la consommait en se modifiant au gré de chacun. Parce que si je veux pas tous les jours des galettes salées, parce que quand même pour finir j'en aurais marre, ça s'adapte à l'évolution de mes goûts. C'est ça le don de Dieu. La substance que tu donnais manifestait ta douceur pour tes enfants. Elle se pliait au désir de celui qui la consommait. Elle se modifiait au gré de chacun. Je vous souhaite un très bon appétit.